Seigneur, conduit aujourd'hui parce que si je m'écoutais, j'aurais rien à prêcher. Tout était dit durant la présidence à travers les chants, à travers la Sainte-Seine. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la biographie du roi des rois. Et je vous invite à tourner avec moi dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Mon frère Ernest, il fait extrêmement chaud en avant. Tournez avec moi dans Ésaïe, chapitre 53. Ah, déjà 11h15, hein? Personne a une dinde dans le four? Quand il n'y aura pas plus que 20 personnes un dimanche à l'église, ce que je ferai le contraire, je placerai des chaises ici, 15-20 personnes en avant, et j'irai m'asseoir, j'irai prêcher à partir de là-bas. Vous allez voir la chaleur qui vient en avant, mais elle reste en avant. Hein, parce qu'on est plus élevé, elle demeure en avant, et c'est étouffant, quoi. Et j'enlève ma veste quand je repasse mes chemises, hein. Et ce matin, elle n'est pas repassée, donc j'ai... Voilà. Gloire à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Gloire à Dieu pour ce matin, pour cette semaine qui vient, nous allons nous rappeler la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'appelle même ça l'Évangile. Isaïe, pour moi, c'est un cinquième Évangile. Mais je tiens à vous rappeler que le grand réformateur Martin Luther a dit de ce chapitre qu'il aurait dû être écrit avec des lettres en diamant sur un parchemin fait d'or pur. Si tous les livres de la Bible sont importants parce qu'ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le chapitre 53 du livre d'Ésaïe est particulier. Quel chapitre lorsqu'on pense que le prophète Ésaïe a écrit la biographie du Seigneur Jésus-Christ 700 ans avant la naissance de celui-ci? Et si vous écoutez attentivement ce matin, vous serez convaincu au plus profond de vous-même, de trois choses. Premièrement, de l'inspiration des Écritures. Deuxièmement, que Jésus-Christ est Dieu fait homme et qu'il est le Messie annoncé depuis des siècles dans la parole de Dieu. Et aussi, troisièmement, je les ai dit tous les trois, qu'il est Dieu fait homme et qu'il est le Messie annoncé. Même si tous les livres de la Bible parlent du Seigneur Jésus, ce chapitre, à mon avis, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, mais ce chapitre est le plus important de toute la Bible. Et ce matin, nous allons parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, nous allons parler de la vie de ce roi ensemble. Et je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu majestueux, tu es un Dieu qui est grand, qui est bon, Seigneur, et ta majesté, Seigneur, elle dépasse tout ce que nous pouvons voir. Et Seigneur, tu as décidé de faire ton nid, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu as décidé de faire de nous, Seigneur, ton temple. Et nous voulons, Seigneur, non pas nous contenter, Seigneur, de te limiter à être le parvis de ce temple, mais, Seigneur, à être un temple trois fois, à être un temple, pardon, que tu puisses venir dans le lieu très saint, Seigneur. Et nous te demandons, à travers ta parole, ce matin, nous rappeler que c'est vrai que Jésus est mort pour nos péchés, que nous sommes justifiés. Mais aussi, Seigneur, que la marche chrétienne à laquelle tu nous appelles, c'est une marche qui nous amène vers la sanctification, qui nous amène sur cette voie droite qui nous conduit directement, Seigneur, vers ton trône de grâce. Sois béni, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir plonger nos regards dans ta parole ce matin. Seigneur, tu connais les besoins de tous et chacun dans ce lieu ce matin. Je te prie, Seigneur, dans le beau nom de Jésus, de visiter tous et chacun, de répondre aux besoins de tous et chacun, afin, Seigneur, que nous sortions tous grandis de ce lieu, avec la certitude, Seigneur, que tu nous auras visités, et Seigneur, que tu nous auras fait du bien et que nous aurons grandi, progressé dans notre foi et dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Dans les versets 1 et 2, alors on va regarder les 12 versets rapidement. Dans les versets 1 et 2, Isaïe nous parle de la naissance surnaturelle de ce roi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on entend quand on parle du bras de l'Éternel? Eh bien, on parle de l'intervention toute puissance de Dieu. Qui a cru que Dieu est intervenu puissamment? Vous voulez voir le bras de l'Éternel, frères et sœurs? Eh bien, Isaïe fait référence ici à une personne. Isaïe dit, écrit, « Il s'est élevé, il s'est élevé, il a grandi devant Dieu. Regardez maintenant, comme une faible plante qui sort d'un sol desséché. Frères et sœurs, il y a quelque chose de miraculeux ici. Il y a quelque chose de miraculeux. Nous attendions à voir quelque chose de puissant et de fort, et nous voyons apparaître une faible plante. C'est ce qu'Isaïe nous dit ici, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et frères et sœurs, c'est une image de la naissance de Jésus-Christ. Vous vous dites peut-être, est-ce que le prophète Isaïe avait cela à l'esprit quand il a écrit ces mots? Eh bien, il suffit de lire Isaïe chapitre 7, verset 14, où il dit, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Et aussi dans Isaïe chapitre 9, verset 6, où il est écrit, « Car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Isaïe savait que Jésus-Christ naîtrait d'une vierge, et même s'il ne comprenait pas tout, Dieu, lui, comprenait. Et il a inspiré ses paroles à Isaïe. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour la naissance virginale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lors d'une étude il y a quelques semaines, à l'étude biblique du mercredi, il y a une doctrine qui est fondamentale dans le christianisme, en tout cas dans le mouvement évangélique, c'est la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Et ce n'est pas pour rien que les gens du monde se moquent de la naissance virginale de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien le malin derrière tout ça, mais pour nous en tant que chrétiens, il est important de ne jamais minimiser la naissance virginale de Jésus. Si Jésus n'était pas né d'une vierge, s'il avait été enfanté par la semence de Joseph, il n'aurait pas pu venir au monde sans péché. Ça prenait la semence du Saint-Esprit déposée dans le ventre de Marie pour que Jésus puisse venir au monde sans péché. Amen. Il aurait été un descendant d'Adam au même titre que vous et moi, et nous savons que tous meurent dans leur union avec Adam. Et s'il n'avait pas été sans péché, il n'aurait pas pu mourir pour nos péchés, il aurait dû mourir pour les siens. En fait, essayez de mourir seulement pour ses propres péchés. Et s'il n'avait pas été sans péché, aucun espoir pour nous, frères et sœurs, d'être pardonnés. Et sans pardon des péchés, nous n'avons aucun espoir d'aller au ciel. Frères et sœurs, il est né d'une vierge afin que nous puissions naître de nouveau. Il est venu sur la terre afin que nous puissions, nous, en retour, aller au ciel. Il est devenu le Fils de l'homme afin que vous puissiez, afin que je puisse devenir un fils et une fille de Dieu. Amen. Jésus n'est pas appelé le Fils de Dieu parce qu'il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge parce qu'il est le Fils de Dieu. Quelle différence! Sa vie n'a pas commencé à Bethléem. C'est Dieu qui a quitté le ciel et qui est descendu sur terre pour vivre parmi les hommes dans la personne de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour la naissance virginale de Jésus. Maintenant, verset 2, verset 3. Lisons encore une fois le verset 2 et le verset 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et là, Isaïe nous dit ceci. Il n'avait ni la beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Frères et sœurs, on aurait pu penser que lorsque le Fils de Dieu est venu sur cette terre, il aurait quitté le ciel, vêtu d'habits royaux, incrustés d'or et de diamants, et qu'il aurait été précédé par des anges, conduisant un char, illuminé de lumières de toutes sortes, entouré d'anges avec des trompettes, jouant une musique glorieuse, annonçant sa venue. Mais ce n'est pas de cette façon que le Seigneur Jésus-Christ a cru bon de venir nous visiter. La seule annonce fut faite à des bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit dans les champs. Et il est né dans un petit village insignifiant qui s'appelle Bethléem, ayant comme revêtement sur le plancher du fumier avec de la paille. Et comme instrument de musique, des mouches bzzz qui volaient allègrement dans cet environnement. Voilà le roi. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, nous dit Isaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frères et sœurs, une naissance surnaturelle, une arrivée très discrète et un début très ordinaire à Nazareth. On a vu hier à travers notre frère Daniel, Nathanaël qui dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de cette bande de montagnards qui habitent juste au-dessus? Qu'est-ce que son père faisait? Son père, c'était un charpentier. À quoi ressemblait Jésus? Nous pourrions penser qu'il devait être impressionnant, qu'il devait avoir une forte personnalité. Et pourtant, au premier coup d'œil, vous n'auriez pas su que c'était lui, si vous aviez voulu le rencontrer. Vous ne l'auriez même pas reconnu. Il est écrit qu'il n'avait... C'est pas le Jésus de Nazareth qui a, dans lequel il y a un film de pendant 3 heures. Hein? Ce qu'on peut remercier le Seigneur, c'est que celui qui a fait le Jésus de Nazareth, il s'est converti. On peut quand même louer le Seigneur pour ça. Mais le texte ici nous dit, Isaïe nous dit, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cela ne signifie pas qu'il était idiot, qu'il était incapable de faire quoi que ce soit avec ses mains. Cela signifie simplement qu'il était comme tout le monde et qu'il ne faut pas penser qu'en observant une foule, vous auriez pu deviner qui était Jésus. Frères et sœurs, rappelez-vous, lorsqu'on est venu chercher Jésus dans le jardin de Gethsémané, il a fallu que Judas donne un signe pour qu'il reconnaisse qui était Jésus. Et ce signe, ce fut un baiser. Les artistes, lorsqu'ils peignent Jésus, se sentent obligés de mettre autour de sa tête cette chose. Vous savez qu'il ressemble à une assiette, là. Hein? Il n'a pas besoin d'avoir ce genre d'auréole au-dessus de sa tête. Mais même les artistes se croient obligés de lui mettre une auréole pour qu'on la distingue des autres personnages sur une peinture, sur une toile. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour leur plaire. Jésus menait une vie tout à fait ordinaire, marchant avec des sandales aux pieds et faisant le bien autour de lui. Moi, je me suis posé la question, pourquoi devait-il en être ainsi? Pourquoi est-il venu de cette façon vers nous? Parce que Dieu voulait qu'il soit accessible pour tous les hommes et qu'on le reçoive par la foi. Parce que la foi, frères et sœurs, est la réponse du cœur de l'homme à l'amour que Dieu a manifesté à travers Jésus sur la croix. Jésus est venu en tant qu'homme ordinaire dans un corps d'un homme ordinaire pour faire en sorte que tous les gens ordinaires et humbles puissent, par la foi, accepter son salut qu'il nous présente à la croix. Et lorsque Jésus accomplissait des miracles, cela n'était pas annoncé à coup de publicité. Au contraire, il n'essayait même pas d'épater les gens. En fait, lorsqu'il faisait un miracle, il leur disait « Chut, arrêtez ! N'en parlez pas à personne. » Il veut que les gens croient en lui. Je peux vous certifier que si votre cœur est bien disposé, que vous découvrez cette personne qui s'appelle Jésus et que vous le voyez tel qu'il est dans la parole de Dieu, dans sa parole, vous vous tournerez alors vers lui, vous verrez alors votre cœur être transformé. Il a été, verset 3, il a été méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Frères et sœurs, les Israélites n'attendaient pas un faiseur de miracles. Ils attendaient un homme politique puissant qui tiendrait tête à l'envahisseur romain. Mais le Messie n'est pas venu pour régner sur ce monde. Il est venu pour régner sur le prochain monde. Mais en attendant de régner sur le prochain monde que Dieu est en train de nous préparer, il est venu pour régner dans le cœur de chaque personne qui le reçoive. Chaque personne qui leur ouvre son cœur, il est venu pour régner dans notre vie. Et il nous donne finalement les prémices de ce qui nous attend pour l'éternité. La paix et la joie qui vient de Dieu. La paix et la joie. Frères et sœurs, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le royaume de Dieu. Hein? Vous avez déjà ce que vous devez recevoir en Jésus-Christ. La seule chose qui va changer, c'est l'environnement. Hein? Plus de larmes, plus de pleurs, plus de péchés. Le diable aurait été chassé. Mais cette joie et cette paix, frères et sœurs, elle est là, elle est présente, elle est en nous. C'est une joie et une paix qui vient du ciel, qui ne vient pas du monde. Parce que le monde ne peut pas connaître cette paix et cette joie. Mais on a déjà reçu en Jésus-Christ cette paix et cette joie. Et j'espère que c'est votre espérance ce matin. Votre espérance de savoir où vous allez passer l'éternité en Jésus-Christ. Amen. Versets 4 et 6, 4 à 6. Lisons ensemble à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous avons pensé que Dieu le punissait à cause de ses péchés. Et il pensait qu'il était puni parce qu'il était méchant et qu'ils étaient épargnés parce qu'ils étaient sans reproche. Pas du tout. Il a été puni parce que nous étions méchants et nous avons été épargnés parce qu'il était parfait. Mais il a été, verset 6, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, nous dit Ésaïe au chapitre 6. Remarquez maintenant ce qui est écrit. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Frères et sœurs, je prends ma Bible, qui représente le péché puisqu'elle parle du péché. Ma main droite représente ma propre personne, et ma main gauche représente le Fils de Dieu qui est sans péché. Je suis un pécheur et vous êtes des pécheurs. Pécheur, main droite. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui aurait l'audace de se lever et de dire « Je n'ai jamais commis de péché » Personne n'oserait le faire, en tout cas pas une personne honnête. Tous ici, chacun sans exception, nous avons tous péché. Comme des brebis, nous dit Isaïe, chacun suivait sa voie. Comme des brebis errants, chacun suivait sa voie. Et cette voie, c'était une voie égoïste. C'était une voie sur laquelle on était fiers de marcher. Et voici le Seigneur Jésus, ce Sauveur qui était sans péché, dont le cœur est pur et rempli d'amour. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, nos iniquités. » Frères et sœurs, il n'a jamais péché, mais il est devenu péché pour nous. Et nos péchés sont retombés, ou si vous préférez, ont été déposés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris notre place, il est mort pour nous. Voilà l'Évangile d'Ésaïe. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous rappeler, les quatre choses que le Seigneur Jésus-Christ a subies à notre place sur la croix. Verset 5. Premièrement, il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui vos péchés et il a pris sur lui mes péchés. Nos péchés ont été déposés sur Jésus. Regardez ce qui est écrit au verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, c'est-à-dire pour nos fautes. Frères et sœurs, pourquoi ne pas dire qu'il a été blessé à cause de mes péchés? Pourquoi ne pas dire qu'il a été brisé à cause de mes fautes? Est-ce que vous savez ce que le verbe blesser signifie dans la langue hébraïque? Il signifie transpercé. Il a été transpercé pour mes péchés et pour les vôtres. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, Jésus lui-même s'est jeté sur le sol en priant et en disant, « Mon Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. » De quoi était-il en train de parler? Parlait-il d'une toute petite coupe? Non, il parlait de quelque chose de spirituel qu'il devait boire, frères et sœurs. Il y a une coupe. Et dans cette coupe, il y avait les péchés du monde. Un enfant abusé, ce péché dans cette coupe. Un ivrogne blasphème Dieu, ce péché dans cette coupe. Un conjoint infidèle, ce péché dans cette coupe. Une personne avec un esprit tordu, pilotant un avion et heurtant une tour à New York, faisant des milliers de victimes, ce péché dans cette coupe. Tous les péchés commis à travers les siècles sont dans cette coupe. Et tous ces péchés vont être déposés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit encore, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Ne pensez pas que Jésus se réjouissait, frères et sœurs, de se rendre sur cette croix. Il redoutait cette heure, il tremblait, sachant tout ce qu'il attendait. Et le texte biblique nous dit, sans faire de cachette, il était saisi d'angoisse. Est-ce que cela le diminue à vos yeux? En tout cas, à mes yeux, au contraire, cela me permet de l'aimer encore davantage. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il prie avec tellement d'ardeur que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. Parce que mes péchés, parce que vos péchés allaient être déposés sur lui. Et Jésus savait que lorsque ce moment arriverait, il allait subir à ma place le châtiment que je méritais pour mes péchés. Et Ésaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Frères et sœurs, il a été puni à votre place. Il a été puni à ma place, afin que je puisse être reconnu juste aux yeux de Dieu. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux, frères et sœurs, vous possédez. Lui, le Fils de Dieu bien-aimé, savait non seulement qu'il allait devenir l'objet de la colère de Dieu, mais il savait aussi que le jugement de Dieu concernant mes péchés et vos péchés allait tomber sur lui et le foudroyer à la croix. Frères et sœurs, si on voulait pousser le bouchon un peu plus loin, on pourrait dire que Jésus a vécu l'enfer que je méritais. Il a vécu à ma place l'enfer qui m'était réservé à cause de mes péchés sur la croix. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Dieu merveilleux nous avons! Ne prenons jamais la naissance virginale à la légère. Ne prenons pas le fait que Jésus soit mort à notre place à la légère. Il a non seulement pris nos péchés à notre place, mais deuxièmement, il a pris sur lui la honte qui est rattachée à notre péché. Verset 7 ici. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus n'a pas été condamné à mort, frères et sœurs. Ce fut un assassinat programmé par les plus hautes instances religieuses de son époque. Son procès était une véritable farce. On a fait venir des témoins qui ont menti sur son compte. Ce fut une parodie de justice et Jésus ne dira pas un mot. Et lorsqu'il arrive devant Pilate, Pilate va lui dire, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai eu le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et lorsque le souverain sacrificateur va se lever et va le questionner, Jésus va garder le silence, sauf quand il va l'adjurer par le Dieu vivant de dire s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus était-il si calme? Parce que, chers amis, non seulement il allait-il prendre sur lui mon péché, mais il allait aussi prendre sur lui la honte de mon péché. Jésus était totalement innocent et il n'a pas dit un seul mot face à ses accusateurs. Chers amis, tout homme qui se tiendra devant Dieu sans avoir reçu auparavant le pardon de ses péchés restera sans voix. Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 22, les versets 11 à 12. Il a parlé de cet homme qui était à table, qui était rentré, qui était à table, et qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Le roi lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Et cet homme eut la bouche fermée. Frères et sœurs, Jésus a pris sur lui ma honte à la croix, et il est mort comme un vulgaire pécheur. Je l'aime pour ce qu'il a fait pour moi et parce que Jésus-Christ a pris sur lui ma honte. J'ai pris la décision de ne jamais avoir honte de lui. Amen. Oui. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Non seulement a-t-il pris mon péché sur lui, non seulement a-t-il pris ma honte sur lui, mais il a pris aussi sur lui ma séparation d'avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et il a accepté d'être séparé de Dieu un court instant, frères et sœurs. Il a pris cela sur lui. Lisons le verset 28 ensemble, le verset 8 ensemble. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et le mot retranché ici signifie qu'il a été séparé, coupé de tous. Il est mort seul, ses disciples l'ont abandonné. Si vous lisez le texte biblique, les passants l'injuriaient, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi, les anciens se moquaient aussi de lui, ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Quel piège! Qu'il descende de la croix si Dieu l'aime. Est-ce qu'un Dieu qui aime son fils permettrait un tel sacrifice? Quel piège! Pour qu'il laisse tomber le plan éternel de Dieu. Quel piège! Quel combat spirituel à la croix Jésus a vécu! Moqué par les gens, abandonné par ses disciples, attaqué par le diable et ses démons, pour qu'il ne termine pas le plan parfait de Dieu pour nous racheter de nos péchés. Il était seul sur cette croix, frères et sœurs. Il était seul. Et comble de malheur, Dieu va se détourner de lui. Vous ne me croyez peut-être pas, pourtant c'est la vérité. Habacuc dit, Habacuc chapitre 1, verset 13, « Ô Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Et à ce moment même, Jésus portait sur lui nos péchés. Voilà pourquoi il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Frères et sœurs, pourquoi a-t-il prononcé ces paroles? Parce que sur cette croix, il prenait avec lui, il prenait sur lui ma séparation et votre séparation d'avec Dieu. Il portait sur cette croix ce que je devais supporter si je n'étais pas sauvé, et c'est l'enfer. La séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi au moment où il prend sur lui mes péchés, où il prend sur lui ma honte, il est séparé de tout contact avec Dieu et qu'il va dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il y a une belle question qu'on pourrait se poser ce matin. Pourquoi il n'a pas dit, « mon Père, m'as-tu abandonné? » C'est intéressant ça, hein? Pourquoi il n'a pas dit, « mon Père, m'as-tu abandonné? » Il a dit, il va dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que Dieu, il est trois fois saint. Dieu est un juste juge. Dieu a programmé une loi. Dieu a des valeurs morales qui sont parfaites. Et Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu ne prendra jamais le péché à la légère. Et lorsque le Seigneur Jésus devient péché pour nous, Dieu doit tourner son dos. Pour la première fois depuis toute éternité, Dieu va tourner son dos de son Fils Jésus-Christ. Mais le Père n'arrêtera jamais d'aimer le Fils. Et ce n'est pas au Père qui s'adresse, c'est à Dieu, c'est au juste juge. Parce que le Père, dans le ciel, si on pouvait avoir une vision de ce que le Père vivait à ce moment-là, le Père devait être en larmes. De voir tous ces pécheurs sacrifier, cracher, se moquer de celui qui est la seule source de leur salut. Le Père. Et moi, quand je vois des parents qui perdent leurs enfants, qui sont en colère contre Dieu, je leur dis, défoulez-vous sur Dieu. Parce que Dieu, il sait ce que vous vivez comme souffrance. Il l'a vécu il y a plus de 2000 ans, il a perdu un fils, lui-ci. Il a perdu un fils. Ouais. Vous pensez que le Père avait les bras croisés et qu'il souriait de voir son fils? Il y a deux, trois passages dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Jérémie, à deux reprises, qui nous dit que Dieu pleurait. Il est esprit, mais en Jésus-Christ, il trouve le moyen de pleurer. Il pleurait quand il voyait la condition de son peuple. Frères et sœurs, quel sauveur merveilleux nous possédons. Jésus est là, suspendu entre le ciel et la terre, sur cette croix, en train de verser son sang. Il est séparé, retranché, coupé de tout contact, abandonné par tous. Et il va citer une parole prononcée par David dans le psaume 22:1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers amis, Jésus ne regardait pas en arrière en citant David. C'est plutôt David qui, en écrivant ses paroles, regardait vers le futur citant Jésus. C'est-à-dire qu'il annonçait ce que Jésus dirait des siècles plus tard sur cette croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce même David qui a écrit dans le psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Jésus n'était pas capable de prononcer ce passage. Vous savez pourquoi? Lorsque Jésus était sur la croix, il ne pouvait pas dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, puisque le Père s'est détourné du Fils. » Quelle solitude il a dû vivre sur cette croix, frères et sœurs! Quelle solitude! Et il a accepté de vivre ce moment de solitude une seule fois dans sa vie, pour que tous ceux qui croient en lui ne soient plus jamais seuls dans leur vie. Et qu'il puisse habiter en nous. Quel sauveur merveilleux! Quel sauveur merveilleux nous avons! Il est mort seul, abandonné de tous. Frères et sœurs, est-ce que cela signifie quelque chose pour vous ce matin? En prenant notre place, il a pris nos péchés sur lui. Et lorsqu'il a pris nos péchés sur lui, il a pris la honte qui était rattachée à notre péché. Et lorsqu'il a pris sur lui notre honte, il a pris sur lui notre séparation d'avec Dieu. Et finalement, il a aussi pris sur lui nos douleurs, nos souffrances. Votre misère, ma misère, verset 9, première partie du verset 10. On a mis mon sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point connu de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Frères et sœurs, Jésus a dû souffrir. Vous vous dites finalement, ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Lisez ce verset. C'était plutôt la main de Dieu qui le frappait. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, nous dit Isaïe. Il n'y a pas de souffrance plus intense que celle-là. Personne n'a jamais vécu une telle douleur. Vous vous dites peut-être que d'autres ont également été crucifiés. C'est parce qu'on ne saisit pas nécessairement toujours ce qui se passe ici, dans ce que Isaïe est en train d'écrire. Je vous dis qu'il souffre parce qu'il est que brisé par la main de Dieu, du sein duquel il est sorti avec qui il était depuis toute éternité. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt. C'est par un court instant de Dieu, alors qu'il était en communion intime parfaite avec le Père depuis toute éternité. Chers amis, quelle souffrance il a dû endurer. On est séparés de nos enfants pendant quelques semaines, quelques mois, et on souffre. On s'inquiète pour eux. Et quoi? On est 50, 60, 70 ans ensemble sur la terre. Mais pensez à la douleur ressentie par Jésus. Depuis toute éternité, il était connecté en communion parfaite avec le Père. Et pour la première fois depuis toute éternité, il voit Dieu qui se détourne, qui tourne le dos à son Fils. Quelle douleur! Quelle souffrance Jésus a dû endurer lorsqu'il est mort sur cette croix pour tous les péchés passés, présents et futurs du monde. Lorsque tous ces péchés présents, passés et futurs ont été déposés ou sont retombés sur lui. Personne ne pourra jamais comprendre ni décrire jusqu'à quel point Jésus-Christ a souffert. Il n'y a pas de souffrance plus douloureuse que celle de mourir en étant crucifié. Et Jésus est allé au-delà de cette crucifixion en acceptant de prendre votre place, en acceptant de prendre la mienne. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Pourquoi? Parce qu'il a choisi qu'on passe l'éternité avec lui. Moi, ça me fait toujours sourire quand on me dit « j'ai choisi de vivre avec Dieu, de passer l'éternité dans le ciel avec lui. » Alors, il a choisi qu'on passe l'éternité avec lui. Dieu, ce n'est pas un dépressif, Dieu, ce n'est pas un déprimé. Dieu n'a pas besoin de personne pour vivre. Il voyage dans le temps ne compte pas. Hein? Il est en l'an 800 comme en l'an 4000, il est en l'an... Et Dieu voyage dans l'éternité, hein? Le temps ne compte pas, les secondes, les minutes et les heures ne comptent pas dans le domaine de l'éternité. Et la Trinité pouvait très, très bien se passer de la créature. Mais Dieu, dans sa grâce, a choisi que nous passions l'éternité avec lui. Et frères et sœurs, en reconnaissance, on devrait avoir des cœurs pour adorer le Seigneur, des cœurs pour le louer, et ça devrait être à l'infini. Ça devrait être à l'infini, frères et sœurs. L'adorer pour ce qu'il est, le louer pour ce qu'il a fait pour nous, le louer pour ce qu'il fait encore pour nous, le louer pour ce qu'il va faire encore pour nous, le louer pour ses promesses. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. On peut compter sur lui. Ce qu'il promet, frères et sœurs, il accomplit. Amen. Amen. Verset 10, deuxième partie du verset 10. Ce sauveur merveilleux, ce roi n'est pas resté dans ce sépulcre. Regardez la deuxième partie du verset 10. Isaïe dit, après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une prospérité, et prolongera ses jours. Qu'est-ce qu'Isaïe est en train de parler ici? Il parle de postérité, il parle de descendants. L'Éternel prolongera ses jours. Attendez une minute, moi je croyais qu'il était mort. Isaïe dit ici, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Frères et sœurs, comment un Dieu peut-il trouver son plaisir avec un homme qui est mort? Qu'est-ce que cet homme qui est mort peut avoir de si particulier? Isaïe dit qu'il a des descendants, que ses jours n'auront pas de fin, que ses œuvres sont admirables et qu'il sert Dieu. Comment un homme qui est mort peut-il avoir des descendants? Comment peut-il servir Dieu s'il est mort? Jésus s'est offert en sacrifice pour le péché de tous les hommes. Cependant, il continue à avoir une grande famille, et Dieu continue à prendre plaisir en lui en prolongeant ses mots. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça signifie, ça? Isaïe est en train de nous parler de la résurrection. Jésus, il est vivant. Même si on avait roulé une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau, même si les chefs religieux sont allés trouver Pilate pour qu'il ordonne que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que les disciples ne se vantent pas que Jésus était ressuscité, même s'ils ont scellé la pierre, et qu'ils ont fait placer des soldats romains devant le tombeau, même s'ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts, Jésus est sorti de ce tombeau. Il est vivant et ses jours n'auront jamais de fin. Frères et sœurs, je pense que c'est mercredi passé à l'étude biblique, j'ai dit que les premiers chrétiens ne disaient pas qu'ils croyaient en Jésus ressuscité. Il disait, nous croyons en la résurrection des morts. Est-ce que vous voyez toute la différence?
Frères et sœurs, on est convaincus que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ça devrait nous faire bouger. Ça devrait nous faire amener à partager cette nouvelle. Frères et sœurs, il n'y a pas personne qui est revenu de l'autre côté, qui est ressuscité, qui est encore vivant. Et ça, là, c'est le fondement christianiste, du véritable christianisme. Je suis en train de vous parler d'une religion, je suis en train de vous parler d'une personne, frères et sœurs. Jésus-Christ, il est mort. Ben oui. Moi, j'étais dans la religion catholique. J'ai enseigné que Jésus-Christ était mort pour tous les péchés du monde. Ça ne m'atteignait pas, ça ne me dérangeait pas. Et la résurrection, pour moi, le jour de Pâques, c'était très abstrait. Oui, c'était pour Jésus. C'est pas nécessairement pour moi. Frères et sœurs, c'est lui qui est né de nouveau. Il vit cette crucifixion. Alors, Paul dit, je suis mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Je vis cette mort, mais surtout, je vis cette résurrection. Frères et sœurs, vous pensez que c'était réservé uniquement aux premiers chrétiens dans les livres des Actes de partir à droite et à gauche puis d'annoncer l'Évangile? De la Samaritaine qui rencontre Jésus au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, qui parle, qui fait les 10 villes et qui va simplement dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Elle n'a pas suivi un cours de théologie. Elle n'a pas suivi un cours d'évangélisation. La résurrection de Jésus était quelque chose de vivant dans son cœur et elle le partageait. Elle le partageait. Frères et sœurs, les gens sont morts spirituellement à l'extérieur. Ils ont besoin de revivre en Jésus-Christ et d'avoir cette espérance que vous avez à la résurrection des morts. Amen! Oui, frères et sœurs. Et les chrétiens du premier siècle en ont payé de leur vie de croire à la résurrection des morts et d'annoncer la résurrection des morts. Parce qu'en annonçant la résurrection des morts, il parlait de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais la résurrection des morts, elle est importante. Et non seulement elle est importante parce que l'histoire ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Isaïe parle d'un homme qui était mort et maintenant il parle qu'il est vivant. Il était mort et Dieu prend plaisir en lui. Il était mort et maintenant il a une grande famille avec lui. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que toutes ces choses que nous avons devant nos yeux ce matin ont été écrites 700 ans avant la venue de Jésus-Christ? Savez-vous pourquoi j'aime Jésus? Chers amis, Confucius est mort, il est toujours dans sa tombe. Bouddha est mort, il est toujours dans sa tombe. Mahomet est mort et il est toujours dans sa tombe. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Nous servons un sauveur ressuscité qui a remporté la victoire sur la mort. Et Paul dit que la victoire qu'il a remportée sur la mort, elle est vôtre, elle est mienne. Que de la même façon que Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, de la même façon il va nous ramener un jour de la mort à la vie, non pas pour être jugé, mais pour rentrer avec les élus sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, ce paradis extraordinaire que Dieu est en train de nous préparer. Frères et sœurs, rappelez-vous, il y a deux résurrections à la fin des temps. La résurrection des justes, la résurrection des injustes. Ceux qui seront acceptés par Dieu, ceux qui seront rejetés éternellement par Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes ces messagers que Dieu veut utiliser pour annoncer cette bonne nouvelle. Quand je regarde les enterrements aujourd'hui, on a une grande vedette du hockey qui est morte il y a deux semaines. On a fait des funérailles incroyables à ce bonhomme-là. Comptez plus de 500 buts. C'était une vedette, une idole. Et là, ce que vous entendez comme commentaire, ben c'est bien parce que tu vas aller rejoindre tes trois autres copains qui sont en haut, vous allez pouvoir continuer à jouer au hockey. Les gens n'ont aucune idée, mais aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté, hein. Et vous savez pourquoi ils n'ont aucune idée? Non seulement parce que le diable a placé un voile devant leurs yeux, mais parce que l'Église ne prend pas ses responsabilités et ne proclame pas l'Évangile de Jésus-Christ. Elle ne parle pas de la crucifixion, elle ne parle pas de la résurrection des morts. Et frères et sœurs, c'est à vous seuls que Dieu a donné ce mandat-là. Même pas aux anges. Et ce serait incroyable la grâce qu'il nous fait. Les anges qui sont dans une autre dimension que la nôtre, s'ils avaient eu cette mission de pouvoir proclamer l'Évangile, en dehors de celle d'annoncer la nouvelle que Jésus venait sur la terre, il parcourait le monde 24 heures sur 24 pour l'annoncer, cette bonne nouvelle. Et frères et sœurs, et nous, qu'est-ce qu'on fait? La plus grande idole du monde occidental, c'est le confort. Il y a des pays qui sont persécutés, mais nous, c'est le confort qui est en train de nous tuer. On est tellement bien dans nos salons confortables. On est tellement bien avec nos écrans TV qui sont à peu près de ce grandeur-là. On est tellement bien, on n'a pas besoin de courir après le chauffage, il rentre direct dans nos maisons. On n'a pas besoin de courir après des lampes à l'huile, après des chandelles. On a de l'électricité comme on en veut. Même si on ne travaille pas, on touche des chèques à la fin du mois. C'est notre confort qui est en train de nous tuer. Alors qu'il y a des chrétiens qui croupissent dans certains pays dans des containers à 40, 45 degrés, qui baignent dans leurs excréments, qui étouffent dans le désert parce qu'on les a placés dans le désert, ces containers. Frères et sœurs, ce qui est en train de tuer l'Église en Occident, c'est notre confort. Notre confort. Que le Seigneur puisse permettre qu'on soit persécuté pour qu'on puisse évaluer la mesure de notre foi. Est-ce qu'on vit une religion ou si on vit une relation? C'est ma prière que Dieu puisse nous persécuter, frères et sœurs, qui ouvre toutes grandes les portes. Amen là-dessus. Et je termine. Verset 11, à partir du verset 11, on va lire jusqu'à la fin. À cause du travail de son âme, en d'autres mots, après avoir subi tant de peines, il parle ici de Jésus. Il rassaisira ses regards, c'est-à-dire il jouira de la vie. Par sa connaissance, mon serviteur, dit-il, juste, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donne ma part avec les plus grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même jusqu'à la mort et qu'il a mis au nombre des, il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté sur lui les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Même les deux malfaiteurs sur la croix, ils se moquaient de Jésus. Et je suis persuadé que c'est le témoignage de Jésus. Charles Spurgeon prêche là-dessus, il a mis un très bon commentaire. Il dit que les deux malfaiteurs ont probablement suivi Jésus à travers son procès. Ils ont été condamnés en même temps que lui, ils l'ont probablement suivi. Ils ont vu qu'il n'avait point ouvert la bouche. Ils ont vu son témoignage en tant que personne. Ils avaient sûrement entendu parler des miracles qu'il avait faits. Et ils l'ont suivi jusqu'à la croix. Et les deux se sont moqués de lui. Frères et sœurs, celui qui entend, là, à côté de lui, là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, là. » Il est touché, frères et sœurs. On ne peut pas faire autrement qu'être touché. Et il va arrêter de se moquer de lui. Il va reprendre son copain. Lisez la prière qu'il fait à Jésus. Il y a la prière de repentance. Il y a la prière de foi concernant la crucifixion, ce que ça lui apporte, et aussi la résurrection. Et le retour de Jésus, il dit, « Quand tu reviendras dans ton royaume, frères et sœurs, vous voyez maintenant le bras puissant du Seigneur par sa connaissance. Est-ce que notre serviteur justifiera beaucoup d'hommes? Il ne parle pas de ce qu'il connaît, mais il parle de nous. Lorsque nous le connaissons, connaissez-vous Jésus? Je ne veux pas dire ici si vous avez déjà entendu parler de lui. Êtes-vous sauvé? Non seulement Jésus est ressuscité, non seulement il est monté au ciel, mais il revient bientôt. Le connaissez-vous? Si ce n'est pas le cas, voulez-vous être justifié? En d'autres mots, voulez-vous avoir la certitude que vos péchés sont pardonnés? Il est écrit que par la mort de Jésus, la justice de Dieu est satisfaite et que l'homme est justifié. Que veut dire le mot « justifié »? Ce mot signifie simplement que Dieu me regarde. Voici mon péché, nous étions tous errants. Je vais regarder le même exemple que tantôt. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivant sa propre voie, et Dieu a fait tomber l'iniquité de nous tous sur Jésus. Il l'a déposé sur Jésus. Qu'est-ce que cela fait de nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que cela fait de nous? Quelqu'un qui est sans péché. Quelqu'un qui est sans péché? Mes péchés ont été déposés sur Jésus. Qu'est-ce qui me reste? Je suis purifié. Pourquoi? Parce que mon péché a été déposé sur lui. Je suis maintenant justifié, et le mot justifié signifie comme si je n'avais jamais péché. Quelle grâce! Quelle grâce, frères et sœurs! Par contre, lui, il est devenu péché pour moi. Il a pris le paquet. Rappelez-vous, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. C'est une grâce qu'il nous fait. Pécheur, lavé, purifié, comme si on n'avait jamais péché, Parce que celui qui était sans péché a décidé de prendre tous les péchés du monde, passé, présent et futur, sur lui. Qu'est-ce qui vous reste, frères et sœurs? Il faut arrêter de penser que Dieu, possible que Dieu ne nous ait pas pardonné un petit péché. Tout déposé sur Christ. Tout déposé sur Christ. Le problème, ce n'est pas tellement de pouvoir penser que Dieu, il est possible que Dieu ne nous pardonne pas un petit péché. Notre problème, c'est qu'on a peur de le confesser. Il nous dit, il est fidèle et bon pour nous pardonner tout péché que nous confessons. Allez, je termine avec ceci. Il y avait une réunion de réveil, une jeune fille accompagnée de ses parents. Pardon, une petite fille accompagnait ses parents et une invitation fut lancée lors de cette réunion de réveil, c'est-à-dire à la fin, aux gens de quitter leur siège pour venir en avant, pour s'approcher en avant. La fille a dit à sa mère, « Maman, pourquoi tous ces gens se dirigent-ils vers l'estrade en avant? Pourquoi les gens se lèvent, quittent leur place et qu'ils viennent en avant? » Pardon. La mère lui répondit, « Ma fille, c'est parce que ces gens s'apprêtent à donner leur cœur à Jésus. » Et cette fille a de répliquer, « Pourquoi n'y allons-nous pas tous? Pourquoi n'y allons-nous pas tous? Pourquoi ne donnons-nous pas tous notre cœur à Jésus? » C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je vous invite à pencher votre tête, nous allons prier en terminant.